Écran radiophonique vous présente un scénario original de Jean-Pierre Junière, des garçons aux yeux verts. Mise en scène, production Jean-Pierre Junière. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisé sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sur cette marque sont la propriété de l'auteur.
Thank you.
Casimir ou d'Arlette. Il n'aime pas ça. Mais dans certaines petites circonstances, téléphone portable peut rendre service. Enfin, a décroché. Allô, oui. Son allô, oui, qu'elle a dit d'une façon nerveuse, le déconcentre. Et puis, il a cette vieille qui lui sourit. Il dit, c'est moi. Qui c'est moi? Là, je sens plus. Ça le gêne de dire qui il est. Il sent qu'il la gêne. Guillaume. Et lui fait, ah, c'est toi, qu'est-ce que tu veux? Ben, là, il sort de ses petits souliers. Elle a une façon de lui parler. Il lui dit, j'ai quitté mon père. C'est bien ça. Je peux te voir? Non, ne viens pas. Allez, ciao. Et elle a raccroché. Il est confus, effondré. En plus, il y a cette vieille truie qui l'a observé et a compris. Elle lui sourit. Il est obligé, c'est de se donner une contenance. Après ce qui lui est arrivé, il a envie, c'est de lui balancer son téléphone de merde à cette gueuse, cette salope. Il est furieux. Il lui tend le téléphone et essaye de dire les choses en essayant d'avoir une voix neutre. Mais il est furieux. Tenez, je vous dois combien? Il lui dit, vous payerez tout en même temps avec la note de départ. Nous savons à qui nous avons affaire. Il se dit, c'est ça, vieille poule, putain. Bien sûr, tu as tout entendu. Et la note que je te dis que je vais la payer, moi, merci. Merci. Il est furieux et sort de l'hôtel. Il n'a pas envie d'y revenir. Tu me feras du bien à cette salope. Comme ça, tu aurais couché gratis. Alors c'est triste, aigri. C'est de la merde. Qu'est-ce qu'il fait ici maintenant? Il se met à marcher au hasard dans cette ville pourrie de merde. Il commence à tomber des gouttes. Saloperie. Et autre conne qui veut pas me recevoir. Oui, c'est bien. T'as quitté ton père. Hein? Va te faire foutre, toi et tes idées de merde. Oui. C'est ça. Débrouille-toi. Débrouille-toi. Les passants le dépassent parce qu'il pleut. Lui, non. Pourquoi faire? Il a mal. Il a nulle part où aller. Il ne veut pas rentrer chez ses parents. Ça ferait con. Quand on est à cet hôtel de merde, qu'est-ce qu'il y ferait? C'est pas le Maine sur les quais de Saône. Marche en direction du quai Rimbaud. Déjà, par beau temps, c'est lugubre, mais là, petit à petit, sa colère diminue. Elle est remplacée par la peur, l'angoisse. Sa gorge se serre. Il se demande ce qu'il va devenir. Il a des difficultés à respirer. Malgré lui, il se met à pleurer. Merde! Je vous fais pas chialer comme un gosse. Mais il n'y peut rien. Il pleure sur lui-même, sa solitude. Il est sûr d'avoir perdu sa mère. Maman, Arlette, parce qu'il aime bien cette pute, malgré son caractère impossible. Là, il est seul. Dans ce décor lugubre, descend sur la berge. Marche au hasard au milieu des conteneurs rouillés. N'a plus boire rien. Aimerait mourir comme ça. Serait peut-être la solution. Oui, la solution. Pourquoi pas? Plus de problème. Et après sa mort, on se mettrait à l'aimer. Et puis, de toute façon, sa vie est foutue. Il est incapable de rien faire. Tout lui fait mal. Il n'est que de la merde, lui aussi. Pourquoi est-il en vie? Ça sert à rien. Crève, mais crève donc! Personne ne te regrettera. Ça lui fait mal de savoir que personne ne le regrettera. Il plaque le dos à un conteneur, soupire. Regarde. Va voir ce qui l'attire. Regarde ce que tu fais. Rien, de la merde. C'est vrai. Va. Ils sont pas capables de vivre. Non, je suis pas capable de vivre comme les autres. La merde, la merde. Il y a de plus en plus de mal. Sans. Tu vas se sentir vraiment mal. Après, il ne pourra rien faire. Et cette pluie, il est trempé. Il voit tout tourner autour de lui. Ah, si je pouvais mourir, je serais bien. Plus besoin de rien. Il a la respiration difficile. Il suffoque. Fait un pas, deux pas. Près du bord, ça bouge, cette chose, et vous attire. Blanche, s'entend, un coup au corps se dit que Guillaume est en danger. Elle est inquiète. Il est bientôt 11h et pas de nouvelles de Guillaume. Elle se dit qu'il est peut-être mal. Elle a senti comme un coup au corps. Elle se dit que c'est peut-être trop tard. Ce coup qu'elle a ressenti, c'est la preuve qu'il est en danger, qu'il va mourir. Les mères ressentent lorsque leurs enfants sont en danger, même lorsqu'ils sont loin d'elles. Alors elle quitte le salon. Il va frapper à la porte de la chambre de son fils. Guillaume, tu peux rentrer ? Rien. Est tellement angoissée qu'elle ouvre la porte. Guillaume. Rien. Elle entre. La pièce est dans les pénombres. Elle est claire. Vois la porte tachée et des bruits de verre. Le désordre, la saleté. Elle n'a pas vu la chambre de son fils depuis longtemps. Par respect pour son fils, elle n'y rentre pas. Là, elle est surprise et inquiète de ce désordre. Des verres, vêtements au milieu de canettes, canettes vides, débris de toutes sortes. Le lit parfait. Du cendrier à terre. Vois que l'armoire est ouverte. Vois que salle de voyage n'y est pas. Regarde le linge. Vois qu'il en manque. Va dans la salle de bain. Trouve tout en désordre sale. Elle retourne à sa chambre. Angoissée, s'assoit sur le rebord du lit. Il est parti. Où il est parti? Elle sait. Elle sent qu'il est en danger. Elle a peur pour son petit. L'angoisse qu'elle a en même temps que Guillaume soulage Guillaume parce qu'il se sent pas seul. On l'aime. Elle se lève, sort de la chambre. Va retrouver son mari au salon. Elle lui dit, Guillaume est parti. Il lui dit, et alors ? Elle lui dit, tu ne comprends pas qu'il est parti. Il a pris ses affaires. Il est parti. Il reviendra. Je ne sais pas. Mais dans quel état ? J'ai peur. Pour lui, ne fais pas de soucis. Tu as peur de quoi? Je sens, je sais qu'il est en danger. C'est toi qui te mets Martel en tête. Bon, je t'assure, avant d'aller dans sa chambre, j'ai sorti quelque chose qui m'a prévenu. Calme-toi. Tu es trop nerveuse. Comment peux-tu savoir qu'il est en danger, ce grand dadais? Elle lui dit. Les mères sentent lorsque leurs fils sont en danger. Il lui dit, je ne crois pas à ces sornettes. Se lève, va à elle, la prend dans ses bras, lui dit, te fais pas du souci, il reviendra. Le gîte couvert est excellent ici. Elle lui dit, arrête de dire n'importe quoi. Tu sais bien qu'il est fragile. Et c'est un grand nerveux. Elle est furieuse et lui dit, « Et puis, c'est de ta faute, toi. Tu l'as battu jusqu'au sang. » Une petite correction, il le méritait. Peut-être bien, mais tu vois où ça l'a mené. Où ça l'a précipité. Où il risque de se perdre. Et tout ça pour rien. Il lui dit, « Arrête de divaguer. » Et se met à lui crier. Tu n'es qu'une brute, un assassin. Tu as tué mon fils, mon fils. Elle est en pleine crise de nerfs. Il voit qu'il ne peut lui parler. Alors il la gifle. Elle s'arrête d'un coup. Elle lui dit « Calme-toi. J'ai eu raison de lui donner une correction à notre fils, parce qu'il le méritait. Je veux bien admettre que je suis allé un peu fort, mais il m'a énervé, il m'a nargué, et si je ne l'avais pas fait, maintenant calme-toi. » Et attendons, moi je suis sûr qu'il reviendra. J'en suis sûr. Elle lui crie, moi non. Il se tait, la fait asseoir dans un fauteuil et lui dit, une fois qu'ils s'assoient en face l'un de l'autre, lui aussi est inquiet et se demande qu'il n'ait pas été un peu trop loin. Il aime son fils lui aussi. Il se met à crier. Mais merde, c'est de sa faute aussi à lui. Sa façon de vous parler. Et puis, on ne sait pas ce qu'il fait. Toujours fourré dehors ou enfermé dans sa chambre à fumer des cigarettes et des tiennes qui puent. Il ne travaille pas. Il ne va même pas à l'université. Foutaise tout ça. On lui a donné des cours pour rien. Des cours qui d'ailleurs ne mènera à rien. Littérature, ça mène à quoi? Et pleure, lui demande. Et qui te dit qu'il ne fait rien? J'ai rencontré, par hasard, un de ses profs de littérature. Il m'a demandé des nouvelles de mon fils. Tu te rends compte? On ne sait même pas ce qu'il fait de ses journées. Tu es comme moi. Toi non plus, tu n'en sais rien. Elle lui dit, il fait peut-être rien de mal. Il hausse ses épaules, même s'il ne fait rien. Ce rien, c'est mal. Parce que, il ne fait rien. Qu'est-ce qu'il va devenir? Qu'est-ce qu'il va devenir plus tard? Il ne dit rien. Pense à son fils qui a besoin d'aide. Ils se taisent, chacun dans leur pensée. Puis ils demandent, qu'allons-nous faire pour le faire revenir, pour savoir où il est? Il lui dit, on ne peut rien faire. Il est majeur. Je me demande quel est ce con qui a donné la majorité à 18 ans. Comme si, à cet âge-là, on est un homme. Elle lui demande, et si on lui demandait au service des cartes? Il lui dit, ne nous dirons rien, parce qu'il est majeur. Et puis tu sais, il ne se sert jamais de sa carte. Il préfère payer un liquide. Il ne reste plus qu'à attendre. Inquiet. Parce que l'inquiétude de sa femme le rend lui aussi inquiet. Il a peur pour son fils. Oui, il a très peur. Soupire et dit, j'aurais pas dû donner une correction aussi forte. Reculant, d'un pas, tombe sur le pavé, à côté de la berge. Il ne peut se relever, la pluie tombe sur le sol, Il est mouillé. Ça joue sur le pavé mouillé, a des difficultés à respirer, comme de l'asthme, une douleur à la poitrine. Tout d'un coup, il ne voit plus. Seul le bruit de la ville lui montre qu'il est en vie. Il voit noir, il ne peut pas bouger. Il est comme plaqué à terre, l'angoisse l'a terrassé. Puis, petit à petit, il revoit, essaye de se soulever, voit, se soulève avec ses deux mains. Se sent faible, encore essoufflé, il y arrive. Une fois relevé, trempé, il sent un grand vide en lui. Pauvre Guillaume, perdu. Mais il ne peut pas vraiment réfléchir. Il fait un pas, deux. Je dis malgré lui qu'il doit sortir de là. Avant de quitter la berge, il voit en face un bistrot. Il veut y aller. Il faut qu'il prenne quelque chose. C'est un petit bistrot Jean Polo, marqué, il est café de la marine. Le patron doit s'imaginer qu'il est au Havre. Il y rentre. Sale, ça sent mauvais, le mauvais vin, la cigarette. Il va s'asseoir à une table. Des vieux en casquette le regardent. Le bistroquet, un petit gros, cigarette aux lèvres, tablier bleu, va à lui. Qu'est-ce que je te sers ? Guillaume ne sait pas. Ce que l'on sert dans les ports chez les sauvages. Alors, il dit timidement, un verre de rouge. Le bistroquet s'éloigne. Le rouge s'y passe partout. Peut-être qu'il aurait dû demander du rhum. Il a lu ça dans l'île au trésor. Oui. C'est peut-être ça qui est bien. Les patrons lui apportent un rouge. Merci. Bistroquet s'éloigne. Guillaume boit cette chose qui a un goût étrange, mais ça chauffe. Il se dit qu'il a bien fait de prendre du rouge. Le rouge, c'est pour les hommes, la bière, c'est pour les jeunes. Lui n'a pas d'âge. Il se sent tout de même mieux, plus vivant. De boire, ça le chauffe. Fois qu'il a fini, se sent vraiment mieux, mais un peu vaseux, et une odeur bizarre dans la bouche. Bien sûr, il n'a pas l'habitude de ce que boive le peuple. Tout le monde sait que le peuple n'a pas le même palais que les autres. Ils aiment de drôles de choses. Ah, la culture, c'est tout. C'est pour ça qu'il faut éduquer les gens. Et c'est ce qu'ils pensent. Il faut les guider à boire des bonnes choses, comme le Bordeaux ou le Bourgogne, mais pas du Marnia dans des bouteilles en plastique, comme il a vu les ouvriers faire. Non, mais là, il sait ce qu'il faut pour les pauvres. Et c'est ce que font les pauvres. C'est la preuve qu'il les aime. Bien sûr, il n'aimerait pas vivre comme eux. Ça non, il ne faut pas charrier. Voilà à quoi il pense. La boisson a fait son œuvre. Après deux verres, il se dit qu'il a fait ce qu'il devait faire. Deux verres, c'est correct. Ça montre qu'on a l'habitude de boire au bar de la marine. Tiens, il aimerait bien une casquette de marin. Serait bien et ça prouverait qu'il est dès l'or. Guillaume aimerait, c'est faire partie d'un groupe. Alors pourquoi pas faire partie de la famille de la marine. De toute façon, il est rejeté partout. Alors, il n'est de rien du tout. Oui. Il dit au patron, en payant, « Je vais aller au boulot maintenant. » Il se dit que ça fait bien de dire ça. Il est fier, puis sort du café. L'esprit un peu vaseux, il a des difficultés à marcher. Oh, mais le Marnia, il faut s'en méfier. C'est traître ça. On en boit, parce que ça donne soif et ça sèche la langue. Mais le goût, après, il rit. C'est ma nouvelle vie. Tiens. Je vais aller voir Arlette. Elle va être heureuse parce qu'elle va savoir que j'ai changé de vie. Il y va qu'à un quart. Heureusement qu'il ne peut plus. Il se sent bien. Heureusement aussi, c'est qu'aujourd'hui son ange gardien fait bien son boulot lui aussi. Parce qu'il risque plus d'une fois de se faire renverser par les voitures. Que doit penser son ange gardien, qu'il est devenu prolétaire. Ça le dégrade lui aussi. Socialement, lui aussi. Il avait à s'occuper d'un jeune de bonne famille qui faisait des bêtises, mais qui était tout de même un jeune de bonne famille. Et puis, il le faut bien. Que jeunesse se fasse. Mais là, le con, il décide de passer à la corde en dessous. Et même tout en dessous. Il ne sait pas ce qu'il attend. La vie des gens de base, c'est pas le paradis. Ah non alors. Et lui, il a pensé à son ange gardien, même pas. Il lui a même pas demandé si lui, ça lui plairait de s'occuper d'un prolo. Alors qu'il était bien dans les affres au-dessus, l'ange gardien se dit « Merde, que vont penser mes potes ? J'aurais honte de le leur dire. » Ils vont se foutre de moi, de ma gueule, et me dire que c'est de ma faute si le pouf se dégrade si bas. La drogue, le vol, ça passe. Mais ça, il est furieux, l'ange gardien. Mais il ne peut pas faire autrement que de suivre ce plouc de Guillaume qui s'enfonce. Et l'on est accroché à ses baskets, à la vie, à la mort. Guillaume, lui, il rigole. Entre dans l'allée de sa dulcinée. Tiens, fais noir. Il rit en pensant à ça. Oui, la fée noire. Il monte, essoufflé. Sonne à la porte. Elle a ouvert, surprise. Mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, salut. Je t'avais dit de pas venir. Je peux entrer? Entre, tu me fais chier. Elle est furieuse. Il veut l'embrasser et se retire. Elle sentit l'odeur infecte du vin prolétaire. Elle aurait préféré ses plus bourgeois. Et oui, on est des gauches, mais on n'est tout de même pas ce qu'aiment les pauvres. Non, il ne faut pas charrier tout de même. Il lui dit, tout heureux, « Eh bien voilà, j'ai quitté mes vieux. » Elle lui dit agacée, « Tu me l'as déjà dit. J'ai décidé, c'est d'être prolétaire. J'ai été boire dans le café de la marine. » « Ah, tu vois ?» Elle lui dit, « Je vois, t'as bu. » On fait ça ?» Il se penche vers elle, veut la prendre dans ses bras et se dégage. « Je veux faire l'amour avec toi. »« Non, j'ai pas le temps. J'ai trop de choses à faire. » Elle lui dit, « Juste pour fêter ma nouvelle vie, allez !» Il cherche à la prendre dans ses bras et se dégage. Il se rapproche. Elle lui dit, « Tu es chiant, vraiment chiant !» Soupire, « Bien, puisque tu as envie et que je n'arrive pas à me défaire de toi, mais on fait vite, hein, pas plus de 5 minutes !» J'ai mon mémoire à faire. Elle quitte son t-shirt. Une demi-heure plus tard, ils sont rhabillés. Après avoir fait l'amour, ça l'a dégrisé. Il se sent triste parce qu'il sent qu'elle ne l'aime pas. Ou moins qu'il le pense. Il n'a rien ressenti. Une fois qu'ils sont réveillés, il lui dit, « Allez maintenant, fiche-moi le camp. » Elle le pousse dehors. Il se trouve sur le paillet, tout bête. Lui qui a attendu, souhaité cet instant, maintenant c'est fini. Je suis encore plus seul. L'amour sans amour, ce n'est rien. N'a plus envie de rien. À quoi bon? Il est triste et se dit que c'est fini. Se sent seul, sans défense. Maintenant, que va-t-il faire? Épuisé, décide de rentrer. une entrée, il le regrette parce qu'il voit la vie détruite. Elle me fait chier celle-là. Elle lui sourit, il passe devant elle. Bonjour. Il se dit que chaque fois qu'il va entrer et sortir, il va falloir qu'il lui dise bonjour. Je ne suis plus libre. Rentre dans sa chambre et s'allonge sur le lit. Épuisé, la langue pâteuse, de mauvaise humeur. Merde, qu'est-ce qu'il va faire? Il en veut à son père de l'avoir forcé à partir. Car c'est de sa faute à ce con, ce sale capitaliste. Avec sa mère, c'est la même chose. Et la vieille Denise, quelle salope celle-là. C'est elle qui l'a lié son Jules contre son fils. Et toujours à fuiner celle-là, et à juger, donner des conseils. Il a envie de l'étrangler cette vieille. Et sa mère, qui n'a rien fait pour l'aider. Oh, sa mère, qui s'est mise du côté des autres. Le visage du grand-père lui vient. Oui, bien sûr, lui, mais il est loin. Et puis peut-être, comprendrait-il pas tout ce qu'a fait son petit-fils? Peut-être, s'il savait certaines choses, il serait furieux contre lui. Non, il est bien seul, va, bien seul, seul dans la jungle. Il déteste cette ville. Il a toujours détesté. Ah, s'il était resté au pays bleu, bleu et vert, rien ne serait arrivé. Rien. Mais là, il ne pouvait qu'arriver le malheur. Avec toute cette merde. Et cette merde qu'il aime. Il se dit, oui, la merde. Rien que de la merde. C'est l'enfer ici. La ville est pourrie. Soupir. Se calme un peu. À cause de tout ce qu'il a fait ce matin, ça l'a épuisé. S'endort. Se réveille. Un peu plus lucide, se dit, il faut que je voie combien j'ai d'argent. J'étais con, j'aurais dû prendre dans le sac de ma mère. Enfin, la chose est faite. Il faut assumer maintenant. Oui, il faut assumer. Regarde dans son portefeuille. Compte ce qu'il a. Ça fait peu. Merde. Merde. Comment il va faire? Trouver du travail? Là, je suis obligé, c'est de faire quelque chose. Il sent son angoisse, se dit. Je dois trouver de l'argent pour la drogue. Il se voit travaillant au milieu de prolos inculte, grossier et faisant un travail de merde, se dit. On veut bien être du côté des prolos, boire un verre comme ça, mais vivre, travailler comme eux, ça non. Il ne faut pas charrier tout de même, non. Alors que faire? Revendre de la drogue? Non, les rétroports, des flics là-bas. Alors, sur les quais, au milieu des dégénérés, des ratés de la nature, ceux-là, si on était sérieux, dès leur naissance, on les aurait détruits. Oh, lui, il aurait du succès, peut-être trop, un ange au milieu des déchets. Mais ça le dégoûte, c'est trop pour se faire de l'argent. Ce qu'ils font sont les derniers des derniers. Non, alors quoi faire? Réfléchit, ne trouve rien, décide de sortir un peu. N'est pas dans le hall. Elle doit bouffer avec son vieux. Vite, dehors. Une fois dehors, il réfléchit ce qu'il pourrait faire pour gagner un peu d'argent. Il en a vraiment besoin de travailler. Tout ça, c'est la faute de son père. Autrement, il n'aurait pas été obligé de travailler. Le pire à ce salaud, à me forcer à travailler. Il le dira à tout le monde. Tout le monde le saura. Et comme ça, il aura honte. Il marche au hasard. Et là, il se trouve sur les quais de Saône. Il y a le marché. Alors gêné, embêté, mais il faut bien. Il demande, ça n'a pas besoin d'aide. La plupart du temps, on lui dit. Il y en a tellement de gens comme toi. On ne les paye même pas. Ils ont l'autorisation, c'est de prendre des choses. Des invendus. Il lui dit, mais moi j'ai besoin d'argent pour payer ma chambre. Une femme grande, forte, dans les 50 ans, cheveux blonds, tête rouge, habillée d'un cul de crème, lui dit, j'ai pitié de toi. Je veux bien te prendre. Mon mari est mort à la guerre d'Afrique. Que c'est furieux. Pour sauver cette salope. Tu vas m'aider à servir les clients. Je te paierai. Ça te va? Oui, merci. Il est tout heureux. Elle lui dit, mais attention. Il faut être sérieux. Il faut se lever chaque matin à 5h30. Le marché commence tôt. Ça te va? Oui, merci. Il est tout heureux. Il se dit, j'ai pas mis longtemps à trouver du travail. La femme vend du poisson. C'est pas facile. Il faut qu'il apprenne le nom des poissons, etc. Il y a aussi une chose, c'est que cette marchandise, malgré qu'il caille, il en faut encore plus de froid. Alors on les met dans la glace. et ça donne encore plus froid pour les prendre. Faut mettre la main dans la glace, mais il est obligé de le faire main nue. La femme est une brave femme qui lui explique au fur et à mesure ce qu'il doit faire. Elle le laisse servir quelques clients. Là, il a peur, c'est de se tromper de poisson. Parce qu'il y en a plein de différents de ces choses-là. La journée se termine vers midi. Il aide la femme à mettre le poisson des invendus dans la camionnette. Il s'en retourne avec son salaire. Il est content, mais épuisé. Enfin, il va pouvoir payer sa chambre. Lorsqu'il entre chez lui, avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Le garçon aux yeux verts. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.